Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Comme à l'entame de chaque demi-heure, on file sur les marchés. Sarah Thirion nous attend chez TP ICA. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Bon, que se passe-t-il sur le marché? Pourquoi a-t-on démarré bon pied, bon oeil? Et pourquoi a-t-on renversé la tendance?
Pas grand-chose, honnêtement. Voilà, on est un peu hésitant. On essaie de temps en temps de se redonner un peu des... Enfin, les marchés, de se redonner un peu d'élan. Voilà, mais il y a quand même de grosses échéances cette semaine, à la fois effectivement la décision de la Fed et d'autre part en fin de semaine aussi les élections italiennes dans une zone euro qui est quand même particulièrement fragilisée économiquement et politiquement. Donc ce sont des échéances qui sont importantes. Et puis on évolue quand même dans un contexte de taux inédit. Enfin, en tout cas depuis longtemps, hein, on a un 10 ans américain qui a atteint les 3,5% hier pour la première fois depuis avril, et puis une meilleure lecture effectivement des perspectives d'inflation avec un taux à 2 ans qui est monté quasiment, qui est quasiment à 4%, et ça c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans. Donc tout le monde est un peu entre deux feux en attendant effectivement de savoir ce qui va se passer, comprenant quand même que la trajectoire des banques centrales ne souffre d'aucun doute, même si on ne peut pas faire grand chose contre une inflation qui est liée à un choc d'offres. Et puis de se rappeler quand même que la Banque mondiale a évoqué le fait que malheureusement, ça ne permettra peut-être pas, ce sera peut-être pas suffisant pour ramener l'inflation à son niveau d'avant-pandémie. Et puis on voit bien au travers du discours d'un certain nombre de sociétés que l'inflation va devenir beaucoup plus pénalisante probablement en 23, avec de l'élasticité prix qui devient quand même un peu tendue. On a compris quand on a vu les publications de Betokinol, de Virbac... ou la réaction effectivement autour de, par exemple, Ford en After Hours.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Juste un petit mot peut-être sur FDJ.
FDJ donc, qui a annoncé être en négociation exclusive pour faire l'acquisition d'une société qui s'appelle The Turf, société qui est spécialisée sur les paris hippiques en ligne et sur les paris sportifs sous un autre nom qui s'appelle The Bet. Donc c'est une cible qui... a enregistré des mises à proportion d'à peu près 800 millions d'euros au titre de 2021, desquels il y avait à peu près 100 millions d'euros avec des acteurs B2C qui sont de gros géants effectivement du pari sportif, que sont Betclic d'une part et Unibet. Donc ça, il faudra voir si ça peut rentrer dans le panier de la cible ou si ce sera à revisiter. Et évidemment, c'est assez cohérent avec la stratégie de la Française des Jeux depuis le départ, puisque elle avait la volonté, le groupe avait la volonté de se diversifier sur les paris en ligne, que ce soit les paris sportifs ou autres. Et d'ailleurs, sur les paris sportifs, le groupe est un acteur super marginal par rapport aux trois géants. On n'a pas de détails communiqués sur le prix. La presse évoque une valeur d'entreprise de 200 millions d'euros.
D'accord.
Donc, ce serait faisable tout à fait par le groupe puisqu'ils ont une structure financière qui est hyper saine. Et évidemment, donc probablement de renforcer effectivement cette offre sur les paris au sens large et donc la légitimité du groupe. Le problème, c'est qu'on a toujours très très peu de réactions autour de la Française des Jeux. Puisque vous le savez, il y a une enquête, il y a une procédure de la Commission européenne qui revient non pas sur l'octroi en fait à la Française des Jeux des 25 ans de droits exclusifs pour l'exploitation des jeux de loterie et des jeux de paris sportifs au niveau physique, d'accord, mais sur la contrepartie qui avait été négociée, qui était de 380 millions d'euros. Donc ça va prendre encore un peu de temps, et donc la lecture du dossier est pour l'instant biaisée et le titre évidemment pénalisé par dans l'attente de l'issue de cette enquête.
Merci beaucoup. Sarah Thirion, TPI Cap, qui nous accompagnait ce matin, le marché parisien, qui perd de 0,43%, 6035 points. Tout de suite, un coup d'œil sur l'Info Éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collo.
Et la une, la Fed se réunit jusqu'à demain. La Banque centrale américaine doit annoncer un relèvement des taux. Le scénario le plus probable est une hausse de 75 points de base comme en juin et juillet dernier. Certains parlent même d'une hausse de 100 points de base. Ce serait du jamais vu depuis 1984. Et conséquence de ce nouveau resserrement monétaire à venir, les taux américains à 10 ans sont au plus haut depuis 11 ans. Les bons du Trésor ont atteint 3,51%, une première depuis avril 2011. En Allemagne, les prix à la production ont augmenté de façon spectaculaire en août, plus 45% par rapport à août 2021. Et c'est bien au-delà des prévisions qui tablaient pourtant déjà sur une augmentation de 37%, en cause là encore la hausse des prix de l'énergie. Après les banques, c'était au tour des complémentaires santé et des assurances d'être convoquées à Bercy ce matin. Et la présidente de France Assureurs annonce à l'instant la mise en place d'un pack anti-inflation. Le secteur va faire des efforts pour contenir la prime moyenne des assurances auto et habitation en deçà de l'inflation. Une mesure prise pour cette année et 2023. Dans le secteur immobilier, les courtiers vont manifester aujourd'hui devant la Banque de France. Ils demandent un relèvement du taux d'usure aujourd'hui trop bas. Il entraîne de nombreux refus de prêts. Selon nos informations, l'institution prévoit d'ici deux semaines un geste assez significatif, un relèvement autour des 3%, ce qui éviterait la plupart des prêts recalés aujourd'hui. Dans l'actualité entreprise, Air France KLM va desservir 171 destinations cet hiver, dont 5 nouvelles au départ de l'aéroport Charles de Gaulle. La compagnie retrouve un niveau d'activité proche de celui d'avant-crise. Et puis, le fonds souverain norvégien, le plus gros de la planète, exige la neutralité carbone. Les 9000 entreprises dans lesquelles il a investi dans le monde doivent parvenir à zéro émission nette d'ici à 2050. Le fonds pèse aujourd'hui près de 1200 milliards d'euros, Cédric.
Merci beaucoup. Stéphanie Collot, qui nous accompagne chaque matin pour lire cette actualité économique. Le marché parisien qui perd 0,4%, 6033 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé entre Irina Topasseri. Bonjour Irina.
Bonjour.
Pour
Cédric.
AXA IM et Sébastien Corchia. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Pour UBS, la maison de gestion. D'abord, votre regard sur cette tendance. Pour quelles raisons le CAC s'accroche? Pourquoi on tient sur les 6000? Est-ce que ça vous surprend, Irina?
Alors moi, c'est pas ma tasse de thé, les marchés financiers en général. Je me concentre plutôt sur l'économie. Mais bon, faut dire que le marché est attentiste, je pense, en taux. Hein.
Donc, d'un côté, se cherche pour lire tout ce qui...
pour lire, et même les économistes se cherchent pour lire. Même, j'ai l'impression que les banquiers centraux se cherchent pour lire. Parce que nous sommes en face d'un double choc, si vous voulez, un choc inflationniste qui est global, hein, mondial, hein, qui heurte, si vous voulez, le pouvoir d'achat des ménages, peu importe la source de l'inflation, qui peut être différente et on peut en toucher un mot. Et aussi, on est en phase de resserrement monétaire, et on en viendra ici à discuter certainement, ce qui fait aussi que c'est un double choc à venir et qui va s'étoffer sur les prochains trimestres. Donc évidemment, le marché cherche à savoir quel est le pic des taux, par exemple, pour arriver déjà à calculer le flux futur des revenus des entreprises. Donc, quid, jusqu'où on ira, jusqu'où les banquiers centraux iront sur ce resserrement monétaire et à quel moment cette inflation finira bien par toucher son pic.
Beaucoup de questions donc qui nous font un peu tourner en rond, un peu on traite toujours des mêmes sujets. Pourquoi est-ce qu'on reste au-dessus des 6000 et ça vous surprend qu'on s'accroche comme ça
Non, d'abord il y a des questions un petit peu techniques dans le sens où l'indice CAC 40 est un indice qui a quand même une composante valeur dollar et valeur pétrolière qui lui permet de surnager par rapport à d'autres indices. Quand vous avez LVMH, Kering et Hermès qui sont des valeurs dollar et que vous avez du total dans l'indice, ça lui permet quand même une forme de bouée de sauvetage. Ceci étant dit, il ne résistera pas si d'aventure la situation, on en parlera probablement, la situation tant en termes de taux que de croissance se détériore. Donc on est dans une position d'attentisme, on tourne en rond, mais on sent quand même cette pression sur les indices. Vous voyez bien que, là c'est l'homme de marché qui parle, au quotidien on sent que les capacités de rebond de ces indices sont à chaque fois faibles et de plus en plus faibles. Elles sont vite noyées et qu'il manque quelque chose. Il manque de l'impulsion parce que tout simplement la balance entre bonnes nouvelles présentes ou à venir et mauvaises nouvelles présentes ou à venir, elle est quand même extrêmement déséquilibrée. Et c'est vrai que au-delà de ce déséquilibre, il y a en plus une énorme incertitude qui est économique, qui est géopolitique, qui est politique, avec tous les rendez-vous qu'on peut avoir. Regardez même des petits qui donnent un peu le là. Je pense à la Suède, mais je pense demain à l'Italie, je pense à après-demain la Chine, même si là il y a moins de surprises, mais surtout les États-Unis qui vont être eux-mêmes dans leurs choix électoraux probablement impactés par la situation économique et la situation d'inflation. Je ne peux pas croire que l'Américain citoyen lambda dans son geste de vote n'intègre pas la situation qui se détériore assez vite. D'ailleurs, aux États-Unis, pas la même vitesse, pas la même métrique. Mais donc voilà, il y a pour l'instant le CAC 40, pour reprendre votre question initiale, il est un petit peu sauvé par ses poids lourds, mais il est comme tous les autres indices, il montre de la fragilité.
Alors effectivement, on a énormément de questions, Irina, et notamment sur ce côté macro, parce que on a l'inflation américaine qui est tombée maintenant il y a quelques jours, 6,3 en août. On a les prix à la production en Allemagne qui ont enregistré ce matin une hausse sans précédent sur un an. On rappelle le chiffre, 45,8%. Alors si on le remet sur un mois, c'est 7,9. Enfin, c'est quand même important. Tout ça, c'est grave, docteur?
L'inflation est un phénomène nouveau, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ça fait des décennies qu'on le voyait s'étioler, en fait, ne plus exister. Donc, les acteurs économiques ont du mal à s'ajuster à ce nouveau choc. D'abord, effectivement, rappelons-nous, ça vient d'abord de tous ces chocs d'offres qui sont venus à la fois avec les maintes confinements qu'on a connus sur les deux dernières années, et puis aussi des à-coups venant de la Chine qui nous fait cette politique de zéro Covid qui cause beaucoup d'à-coups sur la chaîne d'approvisionnement globale. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, souvent, on entend dire, mais la Réserve fédérale n'y peut rien, la Banque centrale européenne n'y peut rien. Oui, ils n'y peuvent rien là-dessus, mais ils y peuvent sur autre chose. Et effectivement, vous le mentionnez bien, peut-être que l'inflation commence déjà. Le taux d'inflation a reflué petit à petit. Peut-être que le pic est derrière nous, mais encore que, on ne peut pas savoir si des nouveaux pics peuvent arriver avec des nouveaux à-coups. Ce que la Réserve fédérale regarde, c'est surtout les tendances sous-jacentes. Et ici, on a vu plutôt le contraire se passer. Donc, on voit qu'en fait, les autres forces, si vous voulez, prennent la dynamique de l'inflation. Vous avez notamment aux États-Unis le prix des loyers aussi, qui est sur une tendance extrêmement clairement, gentiment et doucement, mais continuellement orientée à la hausse. Donc vous voyez bien que la Réserve fédérale aujourd'hui, elle est plutôt dans une phase assez... J'ai l'impression que la tâche de la Réserve fédérale est plus simple que la BCE, parce qu'en gros, la Réserve fédérale regarde une économie qui est, pour elle, quelque peu en surchauffe, même si les premier trimestre de l'année était en croissance négative, c'était des choses assez différentes. La croissance perd un peu de sa vitesse, mais quand même vient d'un niveau très élevé.
Bien sûr.
Ça, c'est pareil, suite à tous ces plans, Trump, Biden, etc. Donc aujourd'hui, elle voit un marché du travail beaucoup trop fort. Hein. Donc on l'a vu, même si le taux de participation commence à revenir, il est loin d'être ce qu'il était avant crise. Donc en gros, elle se dit, je suis en train d'arriver à mon tonneau neutre. Donc, elle n'y est pas encore. Elle y sera peut-être demain. Oui. Donc, on va y arriver. Et à partir de là, elle va se poser la question, est-ce que je vais en territoire restrictif ou pas, pour calmer justement le jeu.
Même si on a beaucoup, et vous l'évoquez encore, ce taux neutre, mais ce taux neutre, il est à pondérer justement de cette inflation. Et donc, on se met de plus en plus à nous évoquer non plus le taux neutre, mais le taux réel. Et là, on n'y est pas encore.
Oui, on n'y est pas encore. Hein. D'abord, le taux réel, il faudrait peut-être le regarder en prenant en compte les anticipations d'inflation future et non pas l'inflation d'aujourd'hui. Donc, on n'y est pas non plus, hein, de toute façon, hein, ni à horizon 2023. Donc, voilà. D'où tout ce sujet qui alimente, effectivement, une possibilité à ce que la Réserve fédérale aille plus loin de ce que le marché anticipe aujourd'hui. C'est une possibilité, c'est une potentialité, surtout que, j'ai envie de dire, tous ces modèles de la courbe de Phillips, etc., qui essayaient de nous guider dans la politique monétaire, n'ont pas fonctionné.
Eh oui, c'est
ça. On se demande s'il y a un retour vers une sorte de vérité théorique. Et de toute façon, il faudra à un moment donné se faire confiance à quelque chose, à un chiffrage. On ne peut pas, une banque centrale ne peut pas gérer à l'aveugle. Hein. Donc, de toute façon, pour l'instant, elle est en train d'essayer d'une sorte sorte de tenter une accalmie sur le front de du marché de l'emploi aux États-Unis, en espérant qu'effectivement ceci va lui permettre de revenir sur sa cible d'inflation à horizon d'ici un an ou deux.
C'est extrêmement intéressant ce qui est dit parce que, en fait, là, on arrive à un moment un peu asymptotique, compliqué pour une banque centrale comme la Banque centrale américaine. C'est-à-dire, comme il a été dit, elle arrive à proximité d'une forme de taux neutre, qui est une vision un peu théorique des choses, de l'impact des taux. Et est-ce qu'elle va effectivement, est-ce qu'elle va en territoire qui fait qu'on rentre dans la récession, on provoque la récession, on essaye de calmer l'incendie inflationniste en coupant l'oxygène, c'est un peu ça. Mais c'est la boîte de Pandore, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et ça, on va le savoir en fait avec le discours, c'est-à-dire pas ce soir avec les 75 points de base ou les 100 points de base, plutôt 75, c'est ce que nous disent les marchés, 18% de probabilité, 82%.
Mercredi soir, hein.
Mercredi soir, mais c'est le discours qui va compter. C'est-à-dire que les taux, effectivement, mercredi soir, les taux, 75 points de base, le marché joue ça à 82%. Et on s'en moque un peu. En fait, le discours, c'est est-ce que le président de la Fed va prendre son costume de Paul Volcker et va aller plus loin et rentre là, finalement, franchit la frontière et peut provoquer la récession. Ou est-ce que il va commencer à calmer les esprits en disant « Bon, pour l'instant, je suis là, j'arrive un peu sur l'asymptote, on va regarder. » Mais il nous a déjà fait le coup de dire qu'on y arrivera, on regardera, on attendra. Sauf que ça va tellement vite, l'inflation. Et effectivement, c'est le deuxième point, c'est que l'inflation, aujourd'hui, on est passé d'une inflation qui impactait l'offre à une inflation qui impacte la demande. Mais vraiment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça impactait l'offre. Et puis le consommateur qui sortait de 2 ans de Covid, de toute façon, il consommait, on lui donnait la hausse de prix. Il avait de l'épargne, il consommait, il voyageait même avec des billets d'avion à plus de 20%, etc. Aujourd'hui, on le voit, et on le voit aux États-Unis. Tout d'un coup, il s'arrête. On le voit avec les chiffres des cartes de crédit. On le voit avec les profit warnings. Vous prenez FedEx, vous prenez l'électroménager, etc. Il s'arrête et il se reconcentre sur une position un peu vitale, fétale finalement de consommation, c'est de dire je fais plus que de l'alimentaire, l'essentiel. Le problème, c'est qu'au moment où il fait ça, effectivement, les loyers se mettent à augmenter. Effectivement, l'assurance maladie, je parle aux États-Unis, se met à augmenter, mais on l'a vu juste avant de cette émission. En France, on va faire le pacte anti-coût de l'assurance privée et autres. Donc on voit que là, il y a un impact très très fort sur la demande. Et c'est là que j'ai peur que le marché, on parlait du CAC 40, il passe d'une posture où il ne regarde que l'inflation à une posture où il va commencer à regarder très sérieusement la récession. Intensité, longueur.
Mais tous les deux, vous évoquez beaucoup les États-Unis et moins la BCE, qui semble encore probablement plus gêné aux entournures. D'abord, on a démarré plus tard. Ensuite, on est gêné avec notre one size fit all. Donc, comment est-ce que va faire la Banque Centrale Européenne ? Tout ça n'arrange pas ses affaires. Parce que derrière, si elle ne suit pas, entre guillemets, pour prendre des termes de casino, ça va swinger sur l'euro, quoi.
Je pense.
Encore plus.
Oui, c'est peut-être plus compliqué pour la BCE, car, comme je disais, la Réserve fédérale, somme toute, est une... presque dans le livre d'économie, une économie en surchauffe, je monte les taux, je calme la demande et peut-être que je tombe sur mes pieds, c'est un peu ce que toute banque centrale tente de faire. Alors que la BCE se dit, là pour le coup, elle voit une inflation quasiment, somme toute, issue de l'inflation importée. Il y a très peu de preuves aujourd'hui qu'il y ait une surchauffe quelconque dans la zone euro. D'abord, qu'il y ait une pression salariale bien ancrée, pas du tout. Donc c'est loin s'en faut. Et en plus de ça, effectivement, quand on regarde sur les trimestres à venir, on a bien plus de questions, voire plus de questions de récession. On le sait, la zone euro est en train de rentrer en récession sur les quatrième, premier trimestre de l'année prochaine, et bien plus forte que la récession très légère qu'on peut envisager aux États-Unis. Et en même temps, elle est obligée de remonter les taux, pas pour freiner la croissance, puisque là, pour le coup, malheureusement, on y est, hein, donc on l'aura, et pour des raisons, là encore, qui sont externes, si vous voulez, le choc de gaz, etc. Mais somme toute, la BCE a un autre mandat, elle essaye d'ancrer les anticipations. Et là, pour le coup, en gros, elle va remonter les taux pour donner un signal aux négociateurs salariaux des entreprises, les syndicats, etc. Attention, je suis là, je montre mon carton jaune, vous ne pouvez pas aller au-delà puisque ce n'est pas le moment. Donc je monte les taux, je monte. Et comme vous le savez, en zone euro, la transmission de la politique monétaire prend bien plus longtemps. En Europe, nous circulons à peu près tous avec des taux fixes, etc., sur les prêts. Ce n'est pas du tout le cas de d'autres économies qui sont beaucoup plus malléables. Donc il y a du temps avant que ces décisions bien soient sûr. Prises en compte. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit ? Ben, j'y vais plus vite. Moi aussi, je vais courir un petit peu dans cette course de taux neutre. Hein. Donc, il va les attendre, la BCE va les attendre probablement en début d'année, mars 2023, probablement. Mais c'est vrai que ça tombe un peu étrangement au même temps où probablement la croissance européenne sera dans son moment le plus délicat.
Oui, c'est ce qui a été dit par le vice-président de la Banque Centrale Européenne qui a déclaré, je ne sais plus si c'était hier ou ce week-end, dans un journal portugais, qui était extrêmement faucon en disant nous, on va remonter. Monter les taux. Alors, il parle peut-être, il n'est pas forcément à sa place, il n'est que vice-président, mais ça fait deux fois qu'il dit avec force on va remonter les taux. Il faut qu'on ancre effectivement les anticipations d'inflation, notre crédibilité aussi, finalement, et on va les remonter, même si ça doit avoir des impacts sur la croissance.
Donc, oui, c'est une forme de quoi qu'il en coûte, quoi.
Et de politique un peu à la Bouba, entre guillemets, politique allemande. Mais quand vous mettez ce qu'on évoque là sur l'Europe, quand vous y rajoutez les États-Unis et que vous y rajoutez, parce que là, on parle beaucoup de la Fed mercredi, je vous rappelle que cette semaine, vous avez la Fed, vous avez la Banque Nationale Suisse, vous avez la Banque d'Angleterre, vous avez le Brésil, vous avez l'Indonésie, vous avez les Philippines. Alors, vous en avez plein à travers le monde qui se réunissent et qui vont remonter leur taux. Et c'est ce que vous dit en fait la Banque mondiale, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas à l'aube finalement d'une sorte d'erreur de politique monétaire à l'échelle mondiale et pas seulement américaine, où tout le monde remonte ses taux. On est à 13,5 au Brésil quand même. Hein. Et là, la Banque mondiale a tiré la sonnette d'alarme en disant on court un risque sur les marchés assez majeur d'une remontée puissante, généralisée, mondiale et finalement trop importante des taux d'intérêt. Donc, vous voyez que le panorama général, il est un petit peu anxiogène pour les marchés.
Bon. Si on quitte nos deux grandes banques et les quelques-unes que vous nous avez citées, pour regarder aussi une autre zone, la Chine, qui vit un moment particulier également, parce que il y a des mesures destinées à sortir un peu du marasme, mesures qui peinent visiblement à convaincre. Et puis en plus, on a à ce moment-là un congrès qui pointe le bout de son nez, avec une reconduction attendue de Xi Jinping, mais quelques inconnus aussi, Irina. Comment est-ce que vous pressentez un peu cette question chinoise ?
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne se pose la question qu'il pourrait y avoir une quelconque surprise politique venant de...
Non, c'est pas tant sur Xi Jinping, oui. C'est plutôt sur la suite.
Mais sur la suite, effectivement...
Notamment le Premier ministre, sur la politique zéro...
Il y a des changements,
zéro.
Effectivement. Il y aura des changements, ne serait-ce qu'automatiques, puisque la Chine a un cadrage assez clair de ces changements politiques concernant l'âge. Donc, il y a plusieurs personnages qui arrivent à échéance, donc de leur terme
date de péremption.
Hein. Exactement. Donc, voilà, il y aura... Et effectivement, le Parti communiste chinois prépare justement ainsi sa nouvelle génération de dirigeants à venir. Donc, elle les fait grandir petit à petit. Donc, ça, c'est bien en place et ça devrait, de toute façon, toujours continuer à virevolter autour de la puissance du premier, donc qui reste tout puissant, si vous voulez. La question se pose aujourd'hui, effectivement, sur la politique économique à suivre. Et là, je crains que c'est pas tout de suite qu'on entendra les grandes nouvelles. Hein, donc, ça va rester dans la continuité. Et effectivement, la question se pose toujours à quid de la politique zéro Covid. Alors, la politique zéro Covid a évolué. Elle est aujourd'hui une politique dynamique, c'est vrai, parce que si on avait eu la même politique en ce moment, je peux vous dire que beaucoup du PIB chinois serait à l'arrêt. Alors,
ils sont déjà plus sélectifs.
Ils sont déjà beaucoup plus sélectifs, donc, et tant mieux. Mais néanmoins, voilà, ça cause des à-coups. Alors, on va leur remercier aussi quelque peu, parce que, si vous voulez, si la Chine aujourd'hui est faible, et c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, ça nous évite une flambée des matières premières.
Exactement. Ouais. Donc, on est dans une situation où, en plus, l'inflation importée de Chine est quand même très faible. Donc, ça joue toujours son rôle désinflationniste, tant mieux, j'ai envie de dire. En même temps, bien sûr, en l'occurrence, vous le mentionnez tout à l'heure très bien, la faiblesse de la Chine pose un gros problème aux pays émergents, qui, dans leur balance courante, sont toujours drivées par la Chine. Alors qu'en même temps, elles ont le pire des deux mondes. Si vous voulez, une Chine en ralentissement, donc ça affecte leur balance courante. Et en même temps, des États-Unis qui remontent leurs taux et un dollar fort, qui, en l'occurrence, affectent leur balance des capitaux. Donc, en gros, les pays émergents se retrouvent dans la pire des configurations. Et là aussi, il va falloir être très attentif sur les évolutions à suivre.
Les pays émergents sont un peu dans la situation des années 80 post-crise énergétique, en fait, choc pétrolier, avec une difficulté effectivement assez forte et des voisins qui sont en récession, un dollar qui peut être qui devient leur problème. Et donc c'est une zone aussi à surveiller. C'est pour ça que la Banque mondiale a été un peu dur là dans son discours en disant attention, c'est en train de se dérégler partout, quoi.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans nos portefeuilles, Sébastien, pour cette fin d'année? Parce que la plupart des épargnants, on va dire qu'ils sont investis sur le CAC, ils se sont dit, bah, finalement, mon été, il n'a pas été si sanglant, je m'en suis pas mal sorti. Donc, je voudrais bien terminer glorieusement l'année, ou en tout cas le moins difficilement. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment?
C'est très compliqué. Et tous les gens qui passent sur votre plateau, que j'écoute aussi, disent la même chose. C'est que depuis le début, on le dit, il y a quelque part zéro visibilité politique, géopolitique, économique, financière et autres. Donc quand c'est comme ça, on est obligé d'être sur la défensive, c'est-à-dire d'avoir du cash. Et vous le voyez, vous ne pouvez pas jouer les valeurs de croissance parce que les taux montent, et vous ne pouvez pas jouer les valeurs cycliques parce qu'on parle de récession. Et donc, la seule voie de repli, c'est soit le cash, soit des îlots, entre guillemets, ce qu'on appelle les valeurs défensives, mais qui, à force d'être surpeuplées, entre guillemets, sont super chères. Et donc, on a un marché qui est extrêmement compliqué, qui probablement aura des envolées, comme on a connu au mois de d'août, parce que de ci de là, une bonne nouvelle en Chine, ou peut-être, espérons-le en tout cas, sur la Russie-Ukraine, mais tout ça, on peut pas le probabiliser, on peut surtout pas le jouer, c'est un peu blanc ou noir. Donc pour l'instant, il faut être très clair, hein. C'est une position d'attentisme, et d'autant plus attentisme et de retrait que là, on va rentrer au moment des publications, très, très bientôt, publications des entreprises. Il faut quand même avouer que ces entreprises, elles nous ont beaucoup surprises dans cette première moitié d'année.
Et plutôt agréablement.
Agréablement, même, il faut dire que la plupart des analystes ont été un peu pris à revers. Là, les différents profit warnings, et puis la hausse trop forte des prix d'énergie et autres, ça peut taper quand même un peu sévère sur les entreprises. Donc, il faut attendre et il faut pas...
Prudence, donc.
Ouais, une grosse prudence, oui.
Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Corchet, UBS, la maison de gestion, et Irina Topasseri pour AXA IM. Merci, Irina, d'être venue dans Regard Croisé ce matin. Dans un instant, un détour sur les marchés grâce à Romain Daubry. Et puis, vous n'oubliez pas, bien évidemment, de nous retrouver en replay sur notre site ou sur vos plateformes préférées.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, 11h30, il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on commence chaque demi-heure par un détour sur les marchés. Et aujourd'hui, c'est grâce à Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui suit l'évolution du marché pour nous. Et pour le moment, on a plus clairement opté pour la baisse, hein, Romain.
Ouais, pour l'instant, mais c'est temporaire. On a un marché qui cherche, comme on le répétait encore chez vous il y a quelques secondes, pas de visibilité dans ce marché. C'est pas clair du tout. Et en plus, on est vraiment à la croisée des chemins sur les grands indices, avec eh bien des niveaux de support majeurs qui ont été testés, et un scénario d'accélération baissière possible ou de rebond de la même façon. Alors on peut pricer ces scénarios. Moi je donnerais 35% de risque baissier pour 65% de risque haussier pour être clair sur les probabilités. On peut pas exclure dans ce contexte de manque de visibilité, de marché creux, de vent contraire avec bien la saisonnalité des marchés, la période actuelle de hausse des taux et les éléments d'incertitude économique. On peut pas exclure ce risque d'accélération baissière marqué avec donc à la rupture des niveaux de support et des plus bas testés hier sur tous les indices, une accélération baissière complémentaire qui est équivalente de l'ordre de 10% sur la plupart des indices boursiers. Maintenant, On a depuis quelques heures des indications intéressantes. D'une part, on a préservé ces niveaux de support, on a rebondi assez nettement. Par ailleurs, la position short n'a pas été reconduite pour, enfin la position ouverte sur les futurs n'a pas été reconduite pour une grosse partie. Et on peut en déduire que c'est une grosse partie du short qui n'a pas été reconduite pour l'instant. Donc les opérateurs sont prudents avant ce grand rendez-vous de mercredi, pour lequel bon effectivement la décision sur les taux elle-même n'est pas fondamentale, mais c'est le discours qui va s'en suivre et la durée de cette politique monétaire qui va compter, et donc tout ce qu'on va pouvoir en déceler dans le discours de Jerome Powell. Il y a le fait que les opérateurs sont couverts, que les portefeuilles sont prudents, et puis on a ce consensus qui est effectivement très très pessimiste, mais et même un excès de pessimisme, puisqu'on a une décollecte qui est historique, une sous-pondération pour l'Europe qui est importante, donc il y a un risque aussi qui n'est pas à négliger non plus dans ce contexte-là et dans ce marché. Alors, les niveaux qu'on va surveiller sur les indices, sur le Nasdaq, c'est le franchissement de 12 090, 12 190, ça invaliderait la structure de retournement baissière qui a commencé à se mettre en place et qui est en train d'être invalidé si on passe au-dessus, donc sur plusieurs clôtures. Si on clôture en revanche sous 11 880, 11 820, là on réactive la dynamique baissière. Il faudrait clôturer sous ces niveaux-là pour valider la structure. Sur le S&P, c'est très propre, c'est 3 838 en bas. 3 838, c'est le bas du gap du 13 juin dernier. Vous vous souvenez sûrement, on en avait parlé, on avait dit que le gap du 13 juin dernier serait le bas du trading range et le gap baissier du 22 août dernier serait le haut du trading range. Pour moi, c'est dans l'idéal, ce que peuvent faire les marchés pour l'instant, c'est de rester entre ces bornes-là pour dans les semaines qui viennent, et donc peut-être de rebondir en direction de ce pied de gap sur le S&P, si on arrive bien à préserver ce niveau de 3 838. Si on le rompt en clôture, le risque d'accélération baissière, il serait donc de l'ordre de 10%. Sur le CAC, c'est 5 970 en bas, 6 480 en haut. On a des niveaux intermédiaires. Pour l'instant, on est sous la médiane du trading range, c'est 6 220 points. Donc, on a un biais baissier pour l'instant, mais on peut alterner des achats et des ventes. Non. Après, de façon sectorielle, il y a 4 ou 5 secteurs qui ressortent. C'est la banque, la finance, l'assurance et un peu l'automobile depuis quelques heures aussi, qui se maintiennent un peu mieux que le reste. Donc, on a des choses à faire de ce côté-là, mais effectivement, on garde une poche de cash assez importante pour des opportunités en cas d'accélération baissière plus marquée.
Merci beaucoup Romain. Romain Daubry et la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accompagnaient ce matin pour suivre les évolutions de ce CAC 40 qui perd pour le moment 0,7% et qui menace donc ses 6000 points, 6017 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Et Yvan Vaillant nous accompagne ce matin. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Pour l'ingénierie patrimoniale d'Edmond Rothschild. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron démarre vraiment avec ces réformes dont on parle, réforme de l'assurance chômage et des retraites. L'occasion peut-être de faire avec vous le bilan des grandes réformes du précédent mandat et de ce que nous réserve le président de la République. Commençons par la flat tax qui nous a beaucoup occupé sur le plan patrimonial. Qu'en est-il 5 ans après ?
Alors, 5 ans avant, en 2017, le taux d'imposition sur le capital, si on comprend fortune et impôt sur le revenu, était de 54,2% sur les revenus financiers en France, soit le taux le plus élevé en Europe. Et donc, avec la flat tax, la France a rejoint ses voisins européens qui ont tous des flat tax situés entre 19 et 28% à peu près, ce qui amène une réduction de l'impôt sur les plus-values de court terme sur portefeuille titre de 60 à 30% et sur les dividendes, donc de 40 à 30%, auquel il faut rajouter quand même la contribution sur le revenu de François Fillon, qui est toujours là.
Voilà donc poser les choses. Il y a aussi, dans cette flat tax, l'assurance vie qui s'est glissée, qui en a, on va dire, qui s'en est plutôt bien tirée.
Oui, elle s'en est bien tirée, puisqu'on a supprimé, vous savez, les taux d'imposition dégressifs après 4 ans et 8 ans sur les rachats opérés sur l'assurance vie, pour les primes versées après septembre 2017. Mais malgré tout, l'assurance vie reste concurrentielle par rapport au portefeuille titre grâce à la capitalisation des gains, tant que vous ne faites pas de retrait du contrat d'assurance.
Autre modification qu'il y a eu et qu'il est intéressant de regarder, ça concernait l'ISF, devenu entre guillemets l'IFI, donc on a sorti, on s'est concentré sur l'immobilier.
On s'est concentré sur l'immobilier, c'était la volonté d'Emmanuel Macron de considérer que l'immobilier était constitutif d'une rente, le fait de percevoir des revenus immobiliers, contrairement à des investissements financiers, ce qui est discutable en soi. Alors, l'IFI a rapporté 1,56 milliard, deux fois plus que prévu, contre 4 milliards pour l'ISF. Et surtout, ce recentrage sur l'immobilier, il s'est fait sans condition et sans fléchage de l'épargne. ce que Bruno Le Maire voulait qu'on n'invente pas d'usine à gaz sur la réforme.
Et toutes ces réformes qu'on a évoquées, est-ce qu'on peut dire quel a été leur impact ?
Alors oui, on a des premiers chiffres, effectivement, même si la crise du Covid et l'amélioration de la conjoncture depuis 2017...
C'est venu peut-être un peu compliquer la lecture. Ouais.
Les données. Alors, les données de France Stratégie nous indiquent qu'en pourcentage du PIB, le taux des prélèvements obligatoires sur l'épargne, en fait, est resté le même. Ça rapporte autant, en fait, en 2019 qu'en 2017. Parce que certes, les taux ont baissé, mais les bases taxables ont augmenté. D'accord. Alors, notamment sur les dividendes, sur lesquels les actionnaires ont parfois la main, ils ont ouvert le robinet. Le robinet fiscal, de recettes fiscales, s'était fermé sous François Hollande en 2013, puisqu'on avait quand même doublé l'impôt. Et évidemment, quand on a baissé l'impôt, là, on a eu plus 9 milliards de dividendes versés sur 2018 et 2019. Pareil sur les plus-values, plus 4 milliards, même si ça profite à peu de foyers, hein, 5 000 foyers, mais ce sont les foyers qui perçoivent ce type de revenus. Et sur l'IFI, là, on a du mal à tirer des conclusions et à conclure que ça permet de réinvestir l'épargne vers le financement des entreprises, parce que les données macroéconomiques ne permettent pas de tirer ces conclusions.
Malgré tout, on disait aussi, notamment sous François Hollande, que c'était un exode, qu'il y avait un exode fiscal. Est-ce que ces mesures n'ont pas permis de réduire, voire de supprimer les départs de fortune de France ?
C'est vrai qu'il y avait des départs, il n'y en a plus aujourd'hui, ou quasiment plus, et il y a plus d'impatriation que d'expatriation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment grâce à la réforme de l'exit tax, qui est beaucoup plus souple qu'auparavant et qui a envoyé vraiment des messages très positifs avec la baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%, la flat tax et l'IFI. Et donc les investisseurs étrangers reviennent en France, ça c'est clair, et les grandes fortunes ne partent plus. Et donc l'OFCE considère que c'est 0,2 points de PIB en plus à la fin du quinquennat, l'ensemble de ces réformes.
Voilà donc le bilan. Et maintenant, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Est-ce qu'il y a des changements ?
Alors, Emmanuel Macron a prôné la stabilité pendant sa campagne, la stabilité des règles fiscales, et c'est ce qu'il avait prôné dans la campagne précédente. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a 5 ans avec un cadre connu. C'est un des grands avantages du premier quinquennat. Ça peut s'étendre à 10 ans s'il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée d'ici là. Donc, ce qu'on va avoir à très court terme, c'est une augmentation de 5% du barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça évitera de passer dans les tranches plus hautes. Ensuite, Emmanuel Macron a annoncé aussi un abattement en matière de transmission qui passerait de 100 à 150 000 euros en ligne directe, un abattement de 100 000 euros en ligne indirecte, donc avec des non-parents, et puis d'intégrer aussi les enfants des conjoints dans les familles recomposées. Donc ça, les Républicains peuvent participer au vote sur ce type de mesures, puisqu'ils sont concrètement d'accord avec ça. Le régime du travail, lui, c'est bien amélioré aussi, et ça, il devrait rester stable. Donc, plutôt de la stabilité à venir.
Bon, malgré tout, il y a cette crise énergétique, ces besoins de transition, etc. Est-ce que ça peut avoir un impact ? Est-ce que ça peut venir bouleverser la stabilité que vous louiez il y a un instant ?
Alors, mis à part la taxe sur les super profits, mais ça qui concerne les entreprises, sur les épargnants, il y a des choses à inventer, en fait. Parce que la fiscalité écologique, jusqu'ici, bon, alors soit elle est punitive et ça ne marche pas, soit elle va concerner les revenus, donc des réductions d'impôts pour isoler mieux son logement, par exemple. Mais sur le fléchage de l'épargne, il n'y a pas grand-chose de fait. Donc on peut très bien imaginer des nouvelles enveloppes fiscales. On peut utiliser aussi l'assurance vie, qui est très peu utilisée. La loi Pacte n'a pas réussi à faire grand-chose là-dessus. Et puis on peut aussi s'orienter vers le private equity. Quand on parle d'investissement durable, de reforestation, d'investissement dans les infrastructures, investir dans les sociétés non cotées, ça a du sens. Chez Edmond Rothschild, on a un fonds, par exemple, qui achète des terres industrielles polluées, qui les dépollue, qui les revend. Bon, on pourrait très bien élargir les fonds fiscaux de private equity à toutes les thématiques écologiques.
D'un point de vue européen, est-ce que vous imaginez qu'il peut y avoir un impact ? Est-ce que les mutations, etc., pourraient se faire sur les patrimoines les plus fortunés ?
Il y a déjà un impact, en fait, parce que l'Europe nous crée des directives régulièrement, fiscales et de plus en plus, pour lutter contre les abus. Donc il y a la directive d'Axis qui empêche les montages fiscaux trans-européens et qui oblige les contribuables ou leurs avocats à s'auto-dénoncer dès lors qu'il y a un montage agressif. Donc ça limite un certain nombre de choses. Et puis il y a une future directive qui arrive qui s'appelle ATAD 3 qui va définir ce que c'est qu'une société écran, une société fictive. Et là, en fait, on va avoir des rapatriements, des relocations de sièges sociaux et de holdings pas parce que ce sont des sociétés fictives, mais parce que les dirigeants se disent on n'a pas envie de s'embêter à rentrer dans les clous de ces définitions très complexes, donc on préfère revenir dans notre pays d'origine. Ce qui peut être sain d'un point de vue économique, mais ce qui va donc avoir des conséquences fiscales.
Allez, on termine avec un conseil à donner aux épargnants.
Moi, mon conseil, ça serait de vous dire, agissez, parce que vous pouvez distribuer des dividendes, transmettre votre entreprise en Dutreil ou en cession avec des taux connus. Vous pouvez profiter d'abattements, même s'ils s'améliorent demain, c'est pas perdu de les utiliser aujourd'hui. Donc, faites-le tant qu'on a une stabilité, parce que ça, on ne sait pas si ça durera 5 ans.
Yvan Vaillant et l'ingénierie patrimoniale d'Edmond Rothschild. Merci Yvan d'être passé nous voir. Merci. Bon retour. Le marché parisien toujours malmené, moins 0,83%. Les 6000 font ce qu'ils peuvent pour résister. On est à 6011 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Jérôme Dédéian, de retour en plateau pour répondre à toutes vos questions pour mon partenaire patrimoine. Prêt, Jérôme ? Prêt. On rappelle l'adresse qui vous est destinée pour nous envoyer vos questions, BFM Patrimoine, @bfmbusiness.fr. Et on commence avec cette question de Dominique. Que pensez-vous de la thématique d'investissement sur les matières premières de la transition énergétique et écologique dans ce contexte de pénurie et donc d'inflation ?
Alors déjà, j'ai envie de dire à Dominique, je ne sais pas si c'est elle ou il, qu'il est plutôt un épargnant averti puisqu'il s'intéresse à la conjoncture, il se pose des questions de thématique d'investissement, c'est plutôt une bonne chose. Alors ce qui est clair, c'est que l'augmentation du prix de certaines ressources que nous connaissons depuis maintenant plus de 2 ans, est liée à 2 facteurs qui sont isolés ou cumulés selon les cas. Il y a vraiment, faut distinguer selon les natures. Il y a d'abord évidemment le produit de la forte demande liée à la reprise qui a rencontré des conditions de production et de logistique et de transport totalement désorganisées par la pandémie. Alors c'est le cas par exemple pour le bois, les composants électroniques, certaines matières premières agricoles. Dans le cas des matières premières agricoles, aggravation avec le conflit ukrainien, avec les mauvaises récoltes dans un certain nombre de pays traditionnellement exportateurs, mais qui ont des besoins internes et qui gardent leur récolte pour eux, etc. C'est le cas pour le blé. Et puis, une tendance de long terme, de croissance de la demande. On va donner un exemple assez facile à comprendre, le cuivre. Le cuivre, il est essentiel aux énergies bas carbone. Je pense que Dominique s'intéresse à ces sujets-là. Il y en a 1 à 5 tonnes dans une éolienne, selon la taille de l'éolienne. Et dans une voiture électrique, il y a 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Voilà. Et donc tout ça,
inévitable,
ça fait une tendance lourde.
Quand on met l'électrique,
Donc pénurie, hausse des prix, inflation. Et donc la thématique matière première liée à la transition peut être intéressante. Alors, ça tombe bien, Dominique. Si vous vous intéressez à cette thématique d'investissement, vous savez que le marché a toujours une réponse pour être capable de jouer une thématique d'investissement, puisque la créativité de l'industrie de la gestion d'actifs est très importante et qui suivent eux-mêmes ces tendances. Alors, il y a des fonds thématiques spécialisés. Parmi ceux des maisons avec lesquelles mon partenaire patrimoine a l'habitude de travailler, on peut citer par exemple Pictet, ceux de Pictet Asset Management. Il y a Pictet Nutrition sur les ressources alimentaires, Pictet Water sur l'eau, Pictet Timber sur la filière bois. Donc voilà, des fonds spécialisés assez anciens.
Et en plus, voilà, c'est ça. Ce sont des fonds qui...
Qui ont une certaine antériorité, hein, avec une vraie stratégie d'investissement, etc. On peut citer ceux de Carmignac ou d'Offi sur la partie matières premières, Carmignac Portfolio Green Gold ou Offi Strategic Metals, sur toutes les matières premières. Après, si Dominique veut élargir, ou si on a des auditeurs qui veulent élargir leur thématique d'investissement à tous les fonds qui s'intéressent à la tendance de financement de la transition écologique et énergétique, il y a une offre très très abondante et de bonne qualité. Par exemple, chez Sycomore Asset Management, les fonds Global et Euro Éco-Solutions, à la financière de l'échiquier, qui est connue pour sa démarche extra-financière depuis très très longtemps, le fonds échiquier Climate and Biodiversity Impact, ou encore échiquier Positive Impact. Puis toujours chez Carmignac, il y a un fonds qui s'appelle Portfolio Climate Transition, qui joue vraiment les valeurs qui travaillent sur la transition climatique. Après, c'est toujours pareil. Quand on s'intéresse à une thématique d'investissement et qu'on utilise des fonds thématiques avec l'offre abondante et souvent de très bonne qualité du marché, il faut faire très attention à ne pas tout jouer sur une seule thématique, à faire attention au profil de risque de son portefeuille général et de l'intégralité de son épargne par rapport à sa qualité d'épargnant. Et donc, il faut au moins jouer une approche multithématique et, si possible, réserver peut-être la
thématique. Ne pas se faire piéger sur un seul thème.
Exactement, parce que les histoires de spécialité sont toujours quand même assez volatiles. Et voilà.
Voilà, Dominique, quelques éléments pour réfléchir à ces questions de thématiques d'investissement sur la transition énergétique et écologique. Question d'Ariel, qui va se marier, et elle a un contrat d'assurance vie avec une clause bénéficiaire historique qui désigne ses frères et sœurs, et elle se demande comment la changer au bénéfice, au profit de son futur mari. Voilà, je vais y arriver.
Alors d'abord, on peut féliciter Ariel de se marier, c'est bravo pour cet engagement. C'est très simple, hein, quand on a un contrat d'assurance vie, on peut modifier la clause bénéficiaire.
À tout moment, gratuitement.
Exactement, et ça se fait en fait à partir d'un formulaire qu'on récupère auprès du conseiller de son contrat ou de l'assureur, qu'on remplit et qu'on renvoie à l'assureur avec la nouvelle clause bénéficiaire que l'on souhaite. Et donc évidemment, Ariel peut envoyer à l'assureur un formulaire disant « Je ne veux plus que ce soit mes frères et sœurs, je veux que ce soit mon mari qui soit le bénéficiaire désigné de mon contrat. » Mais il faut quand même, parce qu'il y a de l'ingénierie civile à faire évidemment dans une clause bénéficiaire, il faut qu'Ariel en profite pour essayer de travailler un peu sa clause bénéficiaire. J'ai aucune idée des enjeux de volume de son contrat, mais peut-être que ça grandira avec le temps et sa capacité d'épargne. Et donc, évidemment, il faut la rédiger en précisant bien, même si je suis sûr que son fiancé est ultra sympa et qu'il va rester marié très longtemps, il faut bien préciser mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, pour prévoir une éventuelle séparation. Et puis, il faut évidemment prévoir en deuxième rang les futurs enfants du foyer s'ils arrivent, pour être sûr qu'on ne se retrouve pas retournant dans le droit des successions en perdant l'avantage successoral de l'assurance-vie. Et puis, s'il y a des enfants et si l'enjeu est important, on peut travailler une clause à option qui jouera dans le futur. Vous savez comment ça se passe. En fait, on laisse le choix au premier bénéficiaire, qui sera le conjoint d'Ariel,
de répartir
ou de prendre ce qu'il veut en pleine propriété ou en usufruit, et de passer directement à la génération suivante en pleine propriété et ou en usufruit, pour optimiser. C'est ce qu'on peut faire. Parfois, les départements juridiques des compagnies sont un petit peu frileux sur ce type de clause. Dans ce cas-là, vous savez que la stratégie de contournement, elle est très très simple. Vous informez la compagnie que votre clause est déposée chez votre notaire en donnant les coordonnées de l'étude.
Quand vous dites frileux, c'est-à-dire que clairement il y a quelques assureurs qui, quand on veut déroger, quand on veut faire des clauses, disent non, c'est pas possible.
Voilà, et dans ce cas-là, vous lui dites c'est mon problème puisque c'est mon contrat, je prends mes risques, ça dégage la responsabilité de l'assureur, ils sont contents. Vous déposez votre clause chez votre notaire, vous indiquez la clause est chez le notaire à la compagnie et tout va bien.
Notaire qui en plus peut vous aider à bien la rédiger pour qu'il n'y ait pas de problème. Ce sera encore plus simple. Voilà, Ariel, comment vous pouvez changer de clause bénéficiaire. Caroline est en train, elle, de divorcer. Bah, je suis désolé, c'est l'inverse de la félicitation que vous vouliez donner.
C'est
évidemment.
La vie.
Bon. Et elle doit racheter à son futur ex-mari ses parts de la SCI qui détient les bureaux loués par sa société. À elle, Caroline. Et elle se demande comment évaluer la valeur de ses parts.
Ah, alors, donc la situation est évidemment une situation complexe de divorce, avec aggravée ici, dans le cas de Caroline, par le fait qu'elle est copropriétaire, si je comprends bien, de la société civile immobilière qui détient les bureaux qu'elle-même utilise pour ses besoins professionnels. Donc elle a évidemment envie de reprendre la main dessus et de ne pas se retrouver avec son ex-mari, son futur ex-mari, dans le capital de sa SCI. Bon. Alors, pour sortir de là, évidemment, ça fait partie de la négociation globale qu'elle aura dans la transaction de son divorce et sa liquidation de régime matrimonial. Moi, je suggérais de procéder de la façon suivante. En fait, il faut accepter qu'il y a un prix de marché à un bien immobilier. Et donc, le meilleur moyen de se mettre d'accord sur un prix, c'est de faire expertiser le bien. Si possible, avec deux expertises indépendantes séparées. Mmh. Et en fait, si les deux experts indépendants qu'on a mandatés pour expertiser le bien arrivent avec une évaluation qui est très proche, le plus simple, c'est de proposer de prendre la moyenne des deux évaluations. Comme ça, il n'y a pas de débat et on évacue ce sujet-là rapidement dans la discussion de liquidation du régime matrimonial. Et puis, évidemment, la valeur du bien n'est pas la valeur de la SCI. Donc ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la valeur de marché du bien à partir des évaluations des experts. On va déduire la dette résiduelle de la SCI si jamais elle a emprunté pour acheter le bien. Et puis, il y a un point, on va évidemment rajouter le cash
disponible
sur le compte courant de la SCI. Puis il y a un point qui est fondamental et qu'il ne faut pas oublier, c'est que si le bien n'est pas un bien dont on est unique propriétaire, mais qu'il est dans une copropriété, il peut y avoir des dépenses, des grosses dépenses, vous savez, le ravalement, l'ascenseur, etc., qui ont pu être votées par la copropriété, donc qui sont des engagements fermes qui vont peser sur les futurs actionnaires de la SCI. Il faut évidemment les déduire de la valeur pour être sûr que on prend bien l'intégralité du passif lié à la propriété du bien au moment où on s'entend sur le prix. Et une fois qu'on a tous ces éléments, et si on est d'accord, pour sécuriser le truc, on fait établir par l'expert comptable de la société civile immobilière une attestation d'actifs nets tenant compte de ces différents éléments avec les annexes qui permettent de justifier des différents éléments pris dans le calcul. Et puis, c'est parti. Alors, il peut arriver dans des discussions un peu difficiles ou des négociations un peu difficiles de liquidation de régime matrimonial qu'on ne soit pas forcément d'accord sur le prix ou qu'on conteste les évaluations des experts ou qu'elles soient très écartées, notamment si chacun a pris son expert, l'un essayant de dire à son expert fait à la baisse et l'autre en disant fait à la hausse parce que les intérêts divergent. Dans ce cas-là, il faut tout simplement prendre un troisième expert qu'on peut aller faire nommer par une personnalité indépendante et puis lui fournir les évaluations des deux premiers et accepter par avance que ce sera son évaluation qu'on prendra.
Allez, il nous reste deux minutes pour répondre d'abord à Guillaume. Que pensez-vous de la société Neurone avec un S ? Est-ce une bonne thèse d'investissement ?
Alors Neurone, c'est une entreprise, ce qu'on appelle une entreprise de services numériques, hein, de services du numérique, donc une ancienne, ce qu'on nous appelait les SS2I, hein, donc une société de services informatiques.
On appelle les ESN désormais.
Voilà. C'est une société qui a pas mal d'ancienneté puisqu'elle a été fondée en 1985. Elle a connu une croissance ininterrompue depuis 1985. Elle emploie aujourd'hui, c'est une très très belle société, c'est plus qu'une ETI, hein, puisqu'elle emploie 6000 collaborateurs, 600 millions de chiffres d'affaires. Et en fait, elle a un historique de marge opérationnelle moyenne de 10%, donc une très belle boîte. Et en fait, la raison pour laquelle c'est une très très belle entreprise, c'est ce que nous disent, c'est pas moi, hein, c'est ce que nous disent les analystes d'ID Midcap. Hein, vous savez que mon partenaire patrimoine fait partie d'un groupe où il y a des analystes qui s'intéressent aux small et mid-cap. Et donc, dans notre dernière lettre boursière, ils ont regardé le dossier. Elle est très très concentrée notamment sur les problématiques du cloud et de la cybersécurité, qui sont des problématiques qui vont tirer sa croissance dans les années qui viennent de façon évidente, ce qui en fait une très bonne thèse d'investissement. Et ce qu'ils nous disent récemment, c'est qu'en fait elle est décotée de 15% par rapport aux autres ESN et que par ailleurs elle a des contrats de long terme et 230 millions de trésorerie accumulée, ce qui en fait en plus une valeur non seulement attractive mais en plus défensive en cas de retournement de conjoncture. Donc clairement les analyses des mid-cap, ça n'est pas une recommandation personnalité d'investissement pour qui que ce soit, hein, bien sûr, sont à l'achat et ils ont un objectif de cours de 42,25 à l'heure d'aujourd'hui. Hier, le cours a clôturé à 35,75. Voilà. Donc ça fait un potentiel de plus-value de 18%. Une belle thèse d'investissement.
Voilà donc quelques éléments de réponse en code 35,95. Effectivement, ce matin, en hausse de 0,56%. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, Jérôme Dédéian, mon partenaire patrimoine. Vous n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec 60 Minutes Business et Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Que nous avez-vous concocté comme programme pour cette mi-journée ?
On va parler des prix à la production qui explosent en Allemagne, un plus 45,8% hausse enregistrée sur un an au mois d'août. On va décrypter ce chiffre avec Jean-Marc Daniel. On va parler aussi des courtiers en colère qui manifestent aujourd'hui devant la Banque de France, en cause toujours ce taux d'usure qui sera renouvelé, recalculé dans la semaine prochaine. La Banque de France pourrait bien aller dans le sens des courtiers pour une fois. On en parlera avec Marie-Cœur de Roy. Et puis, on va parler de l'espace avec Géraldine Najat de l'Agence spatiale européenne. Les grands défis spatiaux pour les prochaines années. Et puis à 12h30, évidemment, avec Lorraine Goumont, on répondra aux questions des auditeurs, téléspectateurs qui nous ont posées sur les réseaux sociaux et sur cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Voilà le programme, Cédric.
Sandra Gandoin, je rassure les riverains de la Banque de France, la manifestation est très bon enfant.
Ça va.
On est sur des courtiers en crédit. Hein.
Effectivement.
C'est pas d'ambiance saucisse merguez. Dans un instant, donc 60 minutes business à suivre. Et nous, on se retrouve bien évidemment demain matin dès 10h pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. Très bonne journée.
C'était votre programme avec Corum l'Épargne, les spécialistes de l'épargne qui vous accompagnent dans vos projets d'avenir. Plus d'informations sur corum.fr.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.